Je suis très content d'avoir assisté à la séance de ce matin parce que je vais justement essayer de réembrayer sur la question de la complexité. Et puis une question, je crois, qui vous avez vu est essentielle, c'est la question de la précarité des êtres. C'est-à-dire la thèse que je voulais développer ici, mais que je n'aurai pas le temps de développer dans toute sa largeur, c'était la thèse selon laquelle notre époque était peut-être l'époque où l'on découvre véritablement le concept de précarité. Et j'entends pas par précarité la précarité sociale, économique ou personnelle. J'entends par précarité ce qui touche profondément les êtres, c'est-à-dire que les êtres ne consistent pas en eux-mêmes, que ce sont des processus précaires et qu'ils sont constitués de relations. Et c'est donc cette notion-là que je voulais mettre en avant. Et si j'avais eu le temps, j'aurais dit un peu à la Foucault, c'est un changement de perception historique, puisque avant cette perception que nous sommes dans un monde précaire avec des êtres précaires, les thèmes qui dominaient, c'était pas celui de la précarité, c'était celui de la faiblesse humaine, hein, dans le monde gréco-latin, et c'était celui de la fragilité humaine dans le monde chrétien. Et la fragilité humaine relativement à une transcendance divine et la faiblesse humaine relativement au destin. En fin de compte, c'était les deux grands socles de la définition de la faiblesse et de la fragilité. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire, en passant, le très beau livre de Jean-Louis Chrétien qui s'appelle « Fragilité », qui est paru chez Brun en 2017. Voilà, donc, je voulais aujourd'hui, pour continuer la discussion de ce matin, me demander, au fond, comment est-ce qu'on peut définir la notion de précarité, quelles sont les étapes de cette perception historique qui fait que nous sommes progressivement amenés à comprendre les êtres fondamentalement, non pas comme substantiels, mais comme précaires. Et c'est, je dirais qu'il y a plusieurs étapes, et une des grandes étapes, ça a été sans doute le livre de Hans Jonas en 1979, le principe responsabilité, puisque c'est la première fois qu'un philosophe va thématiser la notion d'une nature vulnérable. Et si on veut comparer le changement de perception justement entre le monde gréco-latin et puis le monde moderne, eh ben on aurait dans le livre de Hans Jonas tout de suite un saisissant tableau entre les deux manières que nous avons de percevoir la nature et donc les êtres qui constituent la nature. Au tout début du principe responsabilité de Hans Jonas fait référence à l'Antigone de Sophocle, ce chant très connu qui dit que l'homme c'est la merveille des merveilles, et qui ajoute d'ailleurs que cet homme, outillé quel qu'il soit, de quelque façon que ce soit, ne peut jamais entamer la nature. C'est-à-dire que la terre, qui sera infiniment labourée par l'homme, la charrue reviendra inlassablement, jamais la terre ne sera épuisée par la main de l'homme. Et Hans Jonas ajoute que ni les labours, ni l'élevage, ni la domestication n'affectent la nature. L'agir humain laisse inchanger la totalité de la nature, hein, les règnes naturels, eau, mer, terre, vie, les violences humaines, opérer sur la nature, ajoute-t-il, ne diminue jamais leur force créatrice. Et ce qui est très intéressant, que peut-être Jonas ne commence pas, c'est de dire que la nature est infatigable. Et c'est un sens qui me paraît très intéressant. La nature, c'est ce qui ne peut pas être épuisé, dans tous les sens du terme, pour l'antique. Elle est de l'ordre de l'inépuisable. L'agir humain s'exercera avec violence contre elle, mais elle demeure un ordre impossible à diminuer, impossible à affecter et impossible à, pourrait-on dire, à diminuer dans sa puissance créatrice. Elle reste inentamée, inépuisable. Et le livre de Jonas, le principe responsabilité, c'est de dire au contraire que, vu le développement de la technoscience et vu la possibilité d'une destruction totale de la Terre avec la bombe atomique, eh bien au contraire, notre perception de la nature a radicalement changé, et au lieu d'être dans une nature invulnérable, nous prenons progressivement conscience que la nature est elle aussi de l'ordre du vulnérable. Et ce qu'il appelle vulnérable, et que Jean-Louis Chrétien rappelle le sens étymologique de vulnérable, c'est ce qui peut être blessé. C'est donc ce qui peut être affecté dans son corps, et la blessure de la nature est de l'ordre d'une blessure vitale, d'une blessure qui épuise ses potentialités créatrices vitales. Et j'aime bien ce rappel peut-être de Jean-Loup Chrétien, parce que dire que la nature est épuisable ou vulnérable, ou qu'elle peut être blessée, c'est rappeler qu'elle est de l'ordre du vivant, immédiatement. Qu'elle est un vivant, et ça rejoint la conférence qu'il y a eu ce matin sur l'hypothèse de Lovelock, par un autre biais, c'est-à-dire que la nature elle-même peut subir des effets qui conduisent à l'analogie avec un corps vivant. Alors, la proposition de Younas dans Principe responsabilité que je vais la résumer à grands traits parce que c'est pas ça qui va nous occuper, c'est de dire au fond, quand la nature est inépuisable, elle ne peut pas être atteinte dans ses forces créatrices, eh bien la responsabilité politique ne porte pas sur elle. Voilà. La politique n'est pas naturelle. Il n'y a pas de responsabilité politique envers la nature, puisque le cycle de la nature se régénère sans cesse. On pourrait dire que la responsabilité éthique est extra-naturelle dans le monde antique. Tandis que la responsabilité éthique va changer de nature dans le monde moderne, et voulant prendre en compte l'avenir de l'homme, c'est ça la thèse du principe responsabilité, si elle veut prendre en compte l'avenir de l'homme, elle devra nécessairement prendre en compte, dans un type d'obligation nouvelle, ce qui conditionne l'existence de l'homme, c'est-à-dire la nature. Si vous comprenez l'argument de Hans Jonas, c'est de dire, si on veut qu'une humanité future existe, alors la prémisse de cette obligation doit exister aussi, et c'est la nature. Et donc ce changement de responsabilité politique, il est de dire, ça ne peut plus être une responsabilité qui porte simplement sur l'humain, c'est maintenant une responsabilité qui va porter aussi sur la totalité de la nature. On a une responsabilité éthique, cosmomorphe pourrait-on dire, et non plus anthropomorphe. Et il y a un changement radical chez Jonas qui est exprimé dans le principe responsabilité. Voilà une étape très importante que je résume à grands traits de la notion de précarité. Et une deuxième étape que je voudrais exposer plus complètement aujourd'hui, c'est, parce que Principe responsabilité, c'est un livre vraiment génial qu'il faudrait lire et commenter, etc., mais on n'a vraiment pas le temps, c'est le livre de Anat Singh, qui est paru l'année dernière, et qui relance la question de la précarité, qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde », qui est donc une anthropologue californienne, et qui est en anthropologie sociale, et qui a fait un livre absolument magnifique sur la notion, moi je pense que c'est un livre sur la précarité, hein, sur la notion de sur le champignon, le matsutake, le champignon japonais, qui ne pousse que dans les territoires dévastés, soumis à l'exploitation industrielle. C'est le premier champignon qui est poussé après la bombe Hiroshima. À Hiroshima, c'est donc un indice de la dévastation des milieux naturels, un indice de la surexploitation des milieux, un indice de la perte d'hétérogénéité et de complexité des milieux, pour reprendre la thématique de ce matin. Et le champignon Matsutake est devenu un champignon qui pousse donc dans les forêts soumises à l'exploitation industrielle, les forêts du Yunnan, les forêts de l'Oregon, les forêts du Japon, hein, et dans des forêts de Finlande, qui toutes se livraient à la monoculture de certains pins, ou toutes livraient à une exploitation forestière qui élimine la vie interspécifique et la richesse des biotopes. Et c'est donc un très beau livre, parce que c'est un livre qui ne se contente pas de faire un examen de ce que c'est que le champignon Matsutake, mais de la manière dont il nous engage à penser la nature et puis la relation de l'homme à la nature. Alors, elle invente un concept que je trouve absolument génial, qui est le concept de ruine de la nature. Et je dois dire que le concept de ruine de la nature, c'est un concept qui n'existe pas avant Anat Singh. Hein. Il y a une phrase de Jean-Louis Chrétien que j'aime beaucoup, qui est de dire, au fond, dans toute la tradition qui est la nôtre, jamais on peut parler de ruine à propos de la nature. On peut parler de ruine à propos d'édification humaine ou d'urbanisme humain, hein, mais on ne peut pas parler de ruine. Par exemple, dit-il, nous ne parlons pas de ruine à propos de fleurs flétries, à propos des blés couchés par l'orage ou du tronc d'arbre qui est mort. Nous ne parlons pas de ruine tout simplement parce que la nature a la puissance de recommencer. Hein, et que ce qu'elle perd, elle le recrée. Donc il n'y a pas de ruine de la nature au sens là. Inventer le concept de ruine de la nature, c'est donc mettre dans un même lexique, faire converger dans un même lexique des problèmes qui sont des problèmes tout à fait opposés, à savoir précisément la possibilité pour la nature de perdre sa puissance naturante et d'être épuisée. Est-ce qu'il arrive un moment où la nature perd sa puissance naturante, hein, et pas simplement. Et on est confronté à ça sans arrêt, c'est-à-dire des milieux dévastés où il n'y a plus de nature, des milieux désaffectés où il n'y a plus de nature. Ce sont encore des milieux que l'homme fréquente, c'est un peu comme dans le beau film d'Antonioni, Désert Rouge, je ne sais pas si vous avez vu, hein, dans Désert Rouge, Giuliana, elle fréquente des milieux, elle est complètement déprimée, elle va errer dans ces milieux industriels que Antonioni filme avec des couleurs très criardes, des rouges, des jaunes, etc. Mais elle vit dans des milieux dévastés. Tout l'enjeu du film, c'est de se demander, que Giuliana, pourquoi est-ce qu'elle est dépressive? Mais la question ne se pose même pas. Elle est dépressive parce qu'elle a perdu tout milieu de vie. Hein. Et elle erre dans un monde qui est sans milieu, où il n'y a plus rien qui répond à ce milieu de vie. Alors, voilà, donc je voudrais examiner la notion de précarité chez Anna Tsing. Et voilà ce qu'elle dit sur la notion de précarité. Elle dit, la précarité est la condition de notre temps, page 55, et elle ajoute, je considère que seule la reconnaissance de la précarité comme une condition répandue sur la surface de la Terre peut nous permettre de caractériser ce qu'est la situation du monde. Et je trouve qu'elle est très intelligente ici. La précarité n'est plus une situation locale. La précarité, c'est la situation de tous les êtres de la nature aujourd'hui. Et pas la situation économique, sociale, psychologique, non, de l'ensemble des êtres de la nature. C'est une condition universelle répandue à la surface de la Terre. Elle renvoie tous les êtres à leur fragilité et à leur épuisement. Et par épuisement, j'entends, elle renvoie tous les êtres à la possibilité d'être privés de leurs relations. Ce qui épuise les êtres, c'est d'être coupé de leur tissu de relations. Et ce qui prive les êtres de leur tissu de relations, c'est ça l'épuisement. L'épuisement, c'est quand on est coupé de son tissu de relations. Et ce qui prive les êtres de leur tissu de relations, eh ben pour un article, il n'y a pas de doute, c'est une certaine forme de domination capitalistique, de mainmise technologique sur la nature, elle le dira, et elle parlera d'abord d'un premier mécanisme de précarisation des êtres, c'est précisément ce qu'elle appelle, on en a parlé ce matin aussi, l'aliénation. L'aliénation, c'est ce moment où les êtres sont attachés à leur tissu de relations pour en faire des ressources mobiles, hein, dans un échange transnational, bois, matières premières, et qui consiste donc à les extraire de leur milieu après exploitation, dans un déplacement géographique incessant. Quand les sols ne rendent plus, on change de sol. Quand les pays ne rendent plus, on change de pays, et ainsi de suite. Quand le produit ne marche plus, on change de produit, lessivant ainsi toute la surface de la Terre. Même si cette aliénation a un caractère global, puisque le capitalisme est global, il reste que pour Anna Tsing, cet épuisement a toujours aussi un caractère local. C'est toujours une histoire singulière qui se joue. Et c'est aussi un aspect du livre que j'aime beaucoup. Les forêts de l'Oregon ne disparaissent pas comme les forêts du Japon. Elles ont leur histoire. Les forêts du Yunnan ne disparaissent pas comme les forêts de l'Oregon. Chacune à son biotope, ses relations, ses manières d'exister et de faire coexister les êtres. Hein. Et chacune, donc, revêt un caractère particulier, local, historique. Bref, toute entité vivante ne peut pas simplement être l'objet d'un discours universel. Il est nécessairement l'objet d'une description locale. Et Netzing insiste beaucoup sur la correspondance entre deux types d'approches, hein, c'est-à-dire une approche qui serait universaliste, physicaliste, biologiste, etc., et une approche de description de ce qui arrive aux êtres au sein de la nature. Alors, l'aliénation, on voit bien ce que c'est, hein. C'est ce dont on parlait ce matin, la destruction des relations intervitales, ce processus qui va isoler une essence parmi toutes les autres essences, c'est la destruction des relations multispécifiques, c'est la stérilisation des relations qui constituent les êtres. On a cela quand un espace de vie est affecté à une monoproduction, et lorsqu'il modifie le paysage en supprimant toutes les relations vitales qui s'y étaient inscrites. Toutes. Lorsqu'un tel espace de vie est ensuite abandonné parce qu'il n'a plus de valeur, il se transforme en ruine ou en milieu épuisé. La Terre est jonchée de ruines de la nature. C'est quelque chose qui est remarquable, parce que cet épuisement vital, c'est aussi l'épuisement des possibilités vitales et des possibilités de régénérescence vitale. Alors, il y a un deuxième aspect que je voudrais évoquer et qui va dans le sens de ce qu'on, encore une fois, de ce qui était dit ce matin, c'est-à-dire de la perte d'hétérogénéité. Elle invente un très beau concept qui est le concept d'échelle, de conservation d'échelle, qu'elle appelle scalabilité. Elle décrit la scalabilité comme un processus, c'est le deuxième processus après l'aliénation. La scalabilité, c'est le processus par lequel, précisément, un milieu s'épuise aussi. Alors comment ? La scalabilité, c'est la conservation d'échelle d'un même processus d'exploitation centré sur l'extinction de l'hétérogène, de la diversité, de la rencontre. Je vais vous donner un exemple qui est très simple, c'est la monoculture de la canne à sucre. Dans la monoculture de la canne à sucre, qui a été propagée par les colons portugais au Brésil, à partir de clonage d'un même plant, hein, eh bien, sans alliance, sans contamination avec d'autres espèces, cette même souche ayant été implantée sur les terres amérindiennes, eh bien, cette canne à sucre devient une essence cultivée comme élément interchangeable à l'infini et autosuffisant à l'infini, sans aucune relation avec d'autres espèces. Donc la monoculture intensive de la canne à sucre, c'est une monoculture qui exclut radicalement la relation du plant de canne à sucre avec toutes les autres espèces et essaye de propager à l'infini la reproductibilité d'un même processus d'exploitation. Mais ce n'est pas tout. Les travailleurs qui exploitent la canne à sucre sont eux-mêmes des esclaves, arrachés à leur pays d'origine, au pays d'Afrique, pour produire un travailleur sans relation, autosuffisant, interchangeable, privé lui aussi de milieu de vie. Ça, c'est le modèle même du colonialisme. On peut dire que cette exploitation de la canne à sucre ne change pas de nature, qu'elle soit politique, géographique, biologique, elle ne change pas de nature. Elle s'appuie sur l'idée qu'il y a des éléments reproductibles à l'infini, homogènes et interchangeables. Ce modèle-là servira de modèle à toute la colonisation, à toute l'industrialisation, selon Netzing, et il produira cette idée qu'on peut faire fructifier la nature par l'homogène, le répétitif, l'identique, le sans relation. Mais au final, on sait bien ce qui adviendra. Ce qui adviendra, ce sont des terres dévastées, avec des travailleurs précaires arrachés à leur milieu d'origine, hein, produisant un désastre social et un désastre écologique.